Bon, ben, c'est une grosse semaine, le cannabis légal mercredi et le nouveau gouvernement jeudi.
Et voilà, voilà. Et en fait, cette semaine importante commence dès aujourd'hui, Paul, parce que c'est aussi la semaine d'assermentation des nouveaux députés issus de l'élection du 1er octobre. Alors, t'as beau être élu, tu peux pas siéger tant que tu n'as pas prêté serment à Sa Majesté la Reine. Et puis, tu peux pas juste contenter, tu me regardes avec un petit sourire, tu peux pas juste te contenter de marmonner ton serment, Paul.
Non, faut que ce soit clair.
Faut que ce soit très clair. Je, machin Tartampion, déclare sous serment... Non, je recommence. Je, machin Tartampion, jure que je serai fidèle et porterai vraie allégeance à Sa Majesté, la Reine Élisabeth II.
T'as fait ça, toi?
Oui, oui, oui. Je te le dis. Alors là, le premier, c'était très... Je marchais un Tartampion, je que je serai fidèle et porterai vraie allégeance. Puis là, t'es arrivé avec le deuxième serment. Je marchais un Tartampion, déclare sous serment que je serai loyal envers le peuple du Québec. Alors là, il y avait beaucoup plus d'enthousiasme dans le deuxième serment que dans le premier. Mais le premier, t'es obligé
de prêter serment
à la reine. C'est la Constitution canadienne qui nous y oblige. Alors, les députés libéraux commencent le bal aujourd'hui à 14h. Demain, ça va être les députés de la CAQ qui vont prêter serment. Mercredi, les députés de Québec solidaire. Et vendredi, les députés du Parti québécois. Parce que jeudi, c'est le clou de la semaine, donc l'annonce de la composition du Conseil des ministres.
Quelles sont les rumeurs?
Bon, il y a des évidences, Paul. D'abord, depuis qu'il est revenu d'Erevan, petit contexte, François Legault là est en train de mettre la touche finale à la structure du gouvernement. Parce qu'avant de mettre des noms sur les ministères, il faut que tu définisses de quoi les ministères seront composés. Bon, il y a des ministères évidents. Par exemple, les finances, ça va continuer à exister. Et ça va être Éric Girard qui va être ministre des Finances. C'est l'ex-banquier de la Banque nationale. Ce serait très surprenant que ce soit pas lui. De la même façon que ce serait très surprenant que Pierre Fitzgibbon ne soit pas le ministre responsable du développement économique. C'est un homme d'affaires qui a bien réussi. Christian Dubé devrait se retrouver au Conseil du Trésor. À la justice, ce serait très surprenant que Sonia Lebel ne soit pas ministre de la Justice. Même chose pour la santé avec Daniel Mécan. Donc, tu traces les boîtes qui ne le sont pas déjà. Là. Je viens de vous donner 5 ministères là, qui, eux autres, existent déjà, vont continuer à exister. Mais il y a d'autres ministères qui, eux autres, il faut que tu décides. Là. Par exemple, l'immigration. Est-ce que tu le mets avec francisation? Bon, mais si tu décides immigration, francisation, tu crées quelque chose de nouveau. Puis après ça, tu mets le nom sur le ministère. Bon. Alors là, je te rappelle, Paul, François Legault s'est engagé à un conseil des ministres paritaire avec représentation régionale. On va entendre de plus en plus parler de zones paritaires, je te l'ai dit la semaine passée, mais passons là-dessus. Le problème que François Legault a présentement, Paul, c'est que dans certaines régions du Québec, il n'y a que des hommes qui ont été élus. Par exemple, dans le Bas-Saint-Laurent, il n'a qu'un député, Bas-Saint-Laurent-Gaspésie, c'est un dénommé Denis Tardif. Alors, si effectivement il veut avoir une représentation régionale dans le Bas-Saint-Laurent-Gaspésie, il n'a pas le choix que de nommer Tardif. En Outaouais, il a fait élire 3 députés, c'est 3 hommes. Fait que tu vas avoir un homme qui va être ministre responsable de l'Outaouais. Dans le centre du Québec, tu as encore là 3 députés masculins. À Laval, tu as un seul élu de la CAQ, un homme également. Alors, résultat, Paul, parce que je me suis livré à ce petit exercice en fin de semaine, résultat, tu te retrouves avec beaucoup d'hommes en partant dans ton conseil des ministres si tu veux avoir cette représentation régionale. Et c'est pour ça qu'il va parler de zone de parité. La prochaine entrevue que Legault va faire, là, je mettrai un petit 2 sur le fait qu'il va parler de zone de parité parce que il voit bien que il va être obligé, fort probablement, d'avoir un peu plus d'hommes que de femmes dans son conseil pour assurer cette représentation régionale. Mais même à ça, Paul, même s'il donne plus de ministères à des hommes qu'à des femmes pour assurer sa représentation régionale, il y a des hommes qui n'auront pas de ministère, Paul. Il y a des hommes qui pensent...
Mais tu sais, là, on pense aux noms déjà connus. On pense à Éric Kerr.
Oui.
Exemple, dans la région de Québec, mettons qu'il y en a quelques députés de la CAQ. Là.
Ben oui, justement.
Là, ils ne peuvent pas tous entrer au Conseil des ministres.
Et voilà. Et là, tu lis dans mes pensées. Parce que dans la grande région de Québec, oui, tu as CAIR, tu as l'ancien bras droit du maire Labeaume, Gérard, si je me rappelle bien, qui s'appelle. Ensuite de ça, tu as évidemment Geneviève Guilbeault, qui risque fort d'être vice-première ministre. En tout cas, elle est certainement sur la très, très courte liste des candidates pour le poste de vice-première ministre. Est-ce qu'elle aura la laïcité? Certains le souhaitent parce qu'elle a le calme puis la maîtrise du dossier pour y arriver. On verra bien. Mais du côté de Chaudière-Appalaches, Paul, là aussi, tu as beaucoup, beaucoup de candidatures intéressantes et en particulier de candidatures féminines très intéressantes dans Chaudière-Appalaches. Si bien que tu commences à avoir des députés qui, voyant cela, se préparent un plan B. Et j'ai appris en fin de semaine que François Paradis, que tout le monde voit dans un conseil des ministres de la CAQ, fait ses calculs. Visiblement, François Paradis fait ses calculs, regarde l'objectif de parité. Ça veut dire qu'il faut que tu aies un nombre à peu près égal de femmes que d'hommes. Comme tu vas avoir beaucoup d'hommes qui vont arriver des régions, à un moment donné, ça va. Il y en a qui vont se faire squeezer. Il y en a qui vont se retrouver hors.
Mais c'est quoi le plan B?
Présidence de l'Assemblée nationale.
Ah.
Présidence de l'Assemblée nationale, Paul. Tu as un beau cabinet. Tu as un poste de haute visibilité. Tu peux faire des médias en masse. Je veux dire, Paradis, hein?
Très à l'aise.
On s'entend. Tu peux voyager à l'étranger comme président. Puis si Paul, si Jacques Chagnon t'a laissé un petit peu de vin dans sa cave à vin, ça risque d'être des bonnes bouteilles.
Si le cellier n'est pas vide, ça doit être pas pire.
Ah, ça doit être pas pire. Alors, je te dis, François Paradis, député de Lévis, qui était porte-parole en matière de santé dans le cabinet fantôme de Legault avant l'élection, eh bien, il a mis son nom sur la liste. Évidemment, les députés élisent le président. Je te rappelle, mm-hmm. C'est les députés à l'Assemblée nationale, tout parti confondu, qui élisent le président ou la présidente de l'Assemblée. Évidemment, comme les caquistes sont majoritaires, ce qui est important pour Paradis, c'est d'aller chercher l'appui de ses collègues députés d'abord de la CAQ. Et, me dit-on, il a commencé à travailler là-dessus.
Bon.
Donc, c'est à surveiller. Ça va être une semaine extrêmement intéressante.
Mais moi, j'espère une chose.
Oui?
En santé, là, ça serait bien d'avoir quelqu'un qui n'est pas du réseau de la santé. Tu sais, on a eu l'époque des médecins ministres.
Oui.
Là, Mme McCann, c'est une gestionnaire.
Oui. Elle a été présidente de l'Agence de santé de Montréal.
Bon, il me semble qu'on pourrait passer à autre chose. Là. Il me semble que ça ferait du bien d'avoir quelqu'un qui a une autre approche que celle de la bureaucratie. Là.
J'ai peur que tu sois déçu.
Bon, je sais, mais...
J'ai peur que tu sois déçu parce que sinon, tu as le droit de rêver.
Oui.
Hein, tu rêves un peu, là, Paul?
C'est un peu ça.
C'est un petit peu ça. L'autre candidat, c'est Lionel Carman. Mais là, c'est un médecin.
Oui, mais je pense que lui, il va aller plus dans la volonté du M. Legault, les maternelles 4 ans, puis la protection de l'enfance.
L'enfance, ouais. Exactement, ça va être ce ministère-là qu'il va avoir.
Bon, parle-moi des conservateurs fédéraux qui n'ont pas l'intention de faire une grosse bataille sur les signes religieux.
Non, ça c'est très intéressant, c'est le journaliste Daniel Leblanc du Globe and Mail qui nous l'apprend. Gérard Deltel a donné une entrevue, le député conservateur Gérard Deltel a donné une entrevue à Daniel Leblanc dans laquelle il dit « Les conservateurs ont toujours reconnu le champ de compétences des provinces et donc, il dit, le Québec a le droit de légiférer en matière de laïcité, y compris de recourir à la clause dérogatoire. Et la raison pour laquelle je te parle de ça, Paul, c'est intéressant parce que je te rappelle la déclaration de François Legault qui a dit « Je veux régler la question de la laïcité dans la première année de mon mandat. » Alors, ça veut dire c'est un projet de loi déposé quelque part après Noël, mais ça veut aussi dire un projet de loi qui est adopté quelque part l'automne prochain, en plein dans l'élection fédérale.
Ouais.
Hein?
C'est vrai.
Alors là, que les conservateurs disent, nous autres, sur les signes religieux, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord, mais on respecte le droit du Québec de légiférer en cette matière, ça risque de les distinguer des libéraux, parce que Justin Trudeau a dit qu'il n'en voulait pas de la clause dérogatoire, puis qu'il n'aimait pas l'idée que Legault y ait recours. Même chose du côté du NPD, Alexandre Boulris, lieutenant québécois pour le NPD, a fait une sortie en règle contre le recours à la clause dérogatoire. Donc, ce positionnement-là sur cette question-là risque d'avoir un impact très important lors de la prochaine campagne électorale fédérale.
Et un mot sur les funérailles de l'ex-ministre Hélène Zakaïb.
Ben voilà, j'y étais en fin de semaine. Paul, elle est décédée à 59 ans, Mme Zakaïb. Elle était ministre, je te le rappelle, responsable de la politique industrielle dans le cabinet de Mme Marois de 2012 à 2014. C'était une femme remarquable, Paul. C'était une femme vraiment remarquable. Une grande vivacité d'esprit, une grande énergie. Une femme vraiment qui a consacré une bonne partie de sa vie à à favoriser l'essor des entreprises québécoises. C'était vraiment sa grande passion, l'entrepreneuriat, amener des entrepreneurs à se lancer en affaires puis à créer des emplois pour les gens de chez nous. Je veux juste te dire, alors Mme Marois était là, Mme Malavoie aussi, l'ancienne ministre de l'Éducation. Je veux juste te transmettre le message de la fille d'Hélène Zakaïb, Élise, Émilie, dis-je, Émilie. Et Émilie me dit, écoute Bernard, elle est décédée avec l'équipe des soins palliatifs du CLSC de Sorel-Tracy, puis on chiale beaucoup, beaucoup, Paul, contre le système de santé. Et il paraît que l'équipe des soins palliatifs du CLSC de Sorel-Tracy a fait un travail absolument exceptionnel pour accompagner Hélène Zakaïb jusqu'à sa toute fin. Donc, à souligner le travail de Caroline Nguyen, la médecin, Hélène Bernatché et Céline Dansereau, des deux infirmières du CLSC, et toute l'équipe des soins palliatifs du CLSC de Sorel-Tracy qui ont fait un travail absolument exceptionnel. J'étais resté ami avec Hélène Zakaïb. La politique, c'est dur pour l'amitié, Paul. On avait réussi à garder un lien, elle et moi, et ce jusqu'à la fin.
Merci. Voilà. Merci beaucoup. 7h15.